Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de J'irai cracher sur vos ondes, votre émission littéraire sur Syllabe. Cette année, chères auditrices, chers auditeurs, comme vous avez pu l'entendre la semaine dernière, j'ai décidé de me confier à vous. J'ai remarqué que vous étiez des oreilles très attentives et ça fait plaisir, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Aujourd'hui, votre animateur est triste à cause d'un événement qui s'est déroulé ce week-end. Comme tout bon fêtard qui se respecte, je suis allé à la discotropique de Thomas Guézou, un nom qui ne vous est pas inconnu puisqu'il anime également tous les midis la lunchbox sur les ondes de Syllabe. Je rentre donc dans ce lieu de fête et de perdition, accompagné de notre ami Serge, afin de s'enjailler sur le dance floor à renfort de rythmes tropicaux et de décibels poussés au maximum. La nuit se déroule sans accroc, on drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi, comme dirait le chanteur Yannick à la carrière trop courte. Et là je me retourne, et c'est-y pas que mon Sergio n'est plus là, a disparu au beau milieu de la foule. Je le cherche tout le reste de la nuit, c'est-à-dire pas longtemps parce que la nuit était presque finie, sans résultat. Me voilà sans nouvelles de Serge depuis 4 jours. Alors je vous lance un appel solennel, chères auditrices, chers auditeurs. Si vous entendez ou voyez quoi que ce soit, surtout n'agissez pas seul et contactez-nous. Sergio, si tu m'entends, tu devais faire une chronique en fin d'émission aujourd'hui, on t'attend. Sinon, ce qui est sûr, c'est que ce soir dans l'émission, vous retrouverez Marielle et moi-même pour vous parler des coups de cœur de la rentrée littéraire des libraires de notre partenaire Le Fire. Bonsoir à toi, Marielle.
Bonsoir.
Avant cela, vous pourrez entendre Sophie qui va partager avec nous sa lecture de La Vénus à la fourrure de Léopold Van Sager Massoche. Bonsoir, Sophie.
Bonsoir.
Et petite nouveauté de cette saison 2018-2019, dans quelques secondes, maintenant, vous allez retrouver Jean, Fanny et Rosalie pour les actualités littéraires.
Hello, oui, alors une petite actu pour commencer, actu Rennes 2, mardi prochain le 2 octobre commence à la BU de Rennes 2 une exposition intitulée La littérature de Cordel, une rétrospective en images d'un genre poétique brésilien. Elle se tiendra jusqu'au 19 octobre.
Et en ce moment, il y a du beau monde à Rennes. Hier, Boualem Sansal était invité à l'espace Ouest France à la librairie Le Fire. En ce moment, Alain Bancou donne une conférence au Champ Libre. Et la semaine prochaine, mardi 2 octobre à 18h, la librairie Le Fire invite Maëlys de Kerangal pour une rencontre et dédicace à l'espace Ouest France. Elle présentera notamment son dernier roman, Un monde à portée de main. Donc si vous ne savez pas quoi faire, allez-y.
Au niveau national, il y a aussi des belles choses qui se passent. Le 6 septembre dernier, une trentaine d'auteurs se sont réunis pour former la Ligue des auteurs professionnels. Parmi eux, des auteurs, illustrateurs et bédéistes tels que Tatiana de Rosnay, Marie-Aude Muraille, Johan Sfar, Si et bien d'autres. Dans la suite du mouvement Paye ton auteur et en association avec la Charte des auteurs et des États généraux de la bande dessinée, cette organisation a pour but de défendre les droits des auteurs dans divers secteurs éditoriaux. La bande dessinée, la littérature générale, la jeunesse, le polar, la romance, etc. Leurs revendications sont multiples, mais les points forts qui ont été abordés lors de cette réunion sont la reconnaissance du temps de travail et de création des auteurs et la création par l'État d'un statut d'auteur professionnel. Cette ligue de super-héros de l'écriture parviendra-t-elle à sauver un métier précaire et en danger ? La suite au prochain épisode.
Eh bien, merci à vous trois pour ces nouvelles fraîches. Et on enchaîne tout de suite avec Sophie et la Vénus à la fourrure. Sophie, c'est à toi.
Alors, bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis très contente de vous retrouver avec toute l'équipe, une nouvelle équipe de fait, et de continuer à animer pour vous mes chroniques érotiques. Alors, l'année dernière, pour ma première chronique, de fait, je vous avais parlé de Sade et du sadisme, et ça m'a donné envie de vous parler aujourd'hui de Léopold von Sacher Masoche. Je suis désolée, Martin, il est difficile, celui-là. Son nom ne vous dit sûrement rien, mais en 2018 et à l'aube de la démocratisation du porno, je pense que la notion de masochisme vous sera sans doute plus familière. Peut-être Serge, quelque chose. C'est à la suite de la publication en 1870 de son roman La Vénus à la fourrure que le patronyme de Sacher Masoche est transformé par les psychanalystes et donne naissance au masochisme, dont l'imaginaire puissant continue à l'heure actuelle de faire couler bien de l'encre et bien de sang. Lanières de cuir, entraves et mise en scène... Lanières de cuir, entraves et mises en scène compliquées sont même revenues sur le devant de la scène, avec le succès sans précédent des sagas à la Fifty Shades of Grey. Mais plusieurs siècles avant la folie Christian Grey, Sacher Masoche est le premier écrivain à décrire dans son roman une relation de dominant à dominé, une relation d'adoration et de fantasme, celle qui lie Séverin von Kousiemski à Vanda von Donahue. La Vénus à la fourrure est un roman de son siècle, traversé par des inspirations romantiques. Il s'ouvre de fait sur un rêve étrange d'un narrateur inconnu, dans lequel ce dernier entretient un dialogue aux proportions philosophiques avec une femme à la beauté violente et cruelle, la déesse de l'amour elle-même. Je vous laisse découvrir cet incipit.
J'étais en charmante compagnie. Vénus était assise en face de moi, près d'une imposante cheminée Renaissance. Ce n'était pas quelque chose demi-mondaine qui aurait lutté sous ce nom contre le sexe fort, comme Mademoiselle Cléopâtre. Non, c'était bel et bien la déesse de l'amour. Blottie dans un fauteuil, elle avait allumé un feu crépitant, dont le reflet léchait de flammes rouges, son visage blafard aux yeux blancs, et venait lui caresser les pieds de temps en temps, lorsqu'elle tentait de les réchauffer. Ses yeux avaient beau être morts et pétrifiés, sa tête était splendide. Mais c'était tout ce que je voyais d'elle. Cette femme sublime avait enveloppé son corps de marbre dans une ample fourrure et, comme un chat, s'y lovait en frissonnant.
Voilà donc cette image de la Vénus à la fourrure, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. L'impression vive que laisse cette image sur le narrateur le pousse de fait à aller faire le récit de ce rêve à son ami, Séverin von Kosiemski, un être solitaire et marginal, emblématique du romantisme, à l'esprit vif et éclairé, mais également prompt aux crises nerveuses inexpliquées, ainsi qu'à une certaine forme d'autodérision ironique. La relation de ce rêve devient, de fait, le prétexte à l'introduction dans le récit premier d'un second récit, les confessions d'un suprasensuel par Séverin lui-même. Séverin se présente ainsi comme un suprasensuel, un être à la sensibilité exacerbée qui tire son plaisir du joug tyrannique d'une belle femme. Je vous laisse écouter la manière dont il définit cette sensibilité si particulière.
Vous savez que je suis un suprasensuel, que tout chez moi s'enracine dans l'imagination et s'en nourrit. J'ai mûri très vite et j'étais surexcitée lorsqu'on me mit les vies des martyrs entre les mains. Je devais avoir 10 ans à peu près. Je me souviens avoir été horrifiée en lisant comment ils se languissaient en prison, comment ils étaient suppliciés sur le grill, percés de flèches, jetés dans la proie bouillante, livrés aux fauves, crucifiés, endurant les plus horribles tourments avec une sorte de joie. Mais en réalité, tout cela me ravissait. Les souffrances et les tortures me sont dès lors apparues comme une jouissance, surtout si elles étaient infligées par une belle femme. Car selon moi, la poésie et la perfidie se sont toujours concentrées dans la femme. Je lui vouais un véritable culte. Je voyais dans la sensualité quelque chose de sacré, voire le seul principe sacré, et dans la femme et sa beauté, quelque chose de divin. Car elle est avant tout destinée à assurer la reproduction de l'espèce, et rien n'est plus essentiel à la vie. La femme m'apparaissait comme une personnification de la nature, l'Isis, et je voyais dans l'homme son prêtre, son esclave. Je l'imaginais cruelle envers lui, à l'image de la nature qui rejette tout ce dont elle n'a plus besoin, tandis que l'homme éprouve une délicieuse félicité à souffrir et même à mourir sous les mains d'une femme.
Séverin offre ainsi le récit de sa propre relation avec sa propre Vénus à la fourrure. Alors je tiens à insister donc un peu sur cette image, car en fait c'est autour de cette vision que se cristallise le fantasme et aussi la sensualité de Séverin. En effet, lorsqu'il rencontre Vanda, dans une pension isolée et bucolique, il n'est que peu impressionné par cette veuve qui loge sous le même toit que lui. Il est en revanche obsédé, absolument obsédé, par une statue de Vénus qui se trouve dans le jardin et s'esquive fréquemment durant la nuit pour l'observer au clair de lune. Ce n'est que lorsque Vanda le surprend dans son petit jeu et décide de s'en mêler, que Séverin établit une connexion entre sa vision idéalisée et la femme de chair, et les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux. À partir de cet instant, Vanda devient pour Séverin la projection, l'incarnation de la Vénus à la fourrure, et il entreprend de la convaincre de réaliser pour lui ce fantasme. Vanda n'est elle-même pas une femme ordinaire. Imprégnée de culture classique depuis sa tendre enfance, elle se revendique comme sensualiste et comme libertine, une grecque, une païenne même, qui entend bien profiter de sa liberté. Lorsqu'elle informe Séverin de son impossibilité à lui garantir sa possession exclusive, ce dernier décide que s'il ne peut obtenir l'épouse idéale, il souhaite devenir son esclave absolu. D'abord, par amour, Vanda refuse, puis, par amour aussi, elle finit par accepter. Les deux jeunes gens se lancent alors dans un dangereux jeu de rôle qu'ils viennent sceller par un contrat aux allures faustiennes.
À compter de ce jour, M. Séverin von Kosiemski cesse d'être le fiancé de Mme Vanda Vandanayou et renonce à tous ses droits que lui octroyait sa qualité d'amant. En revanche, il s'engage sur sa parole d'homme et de gentilhomme à être désormais l'esclave de la dite dame jusqu'à ce qu'elle lui rende elle-même la liberté. En tant qu'esclave de Madame Vandanahue, il devra porter le nom de Grégoire, combler ses désirs, obéir à tous ses ordres, être soumis à sa maîtresse et considérer toute marque de bonté comme une grâce extraordinaire. Si Madame Vandanahue venait à la franchir, Monsieur Séverin von Koussiemski se trouverait dans l'obligation d'oublier tout ce qu'il a vécu ou subi lors de sa servitude et ne devra jamais songer, sous aucun prétexte, à se venger ou à user de représailles. En contrepartie, Madame Vandanahue, en tant que sa maîtresse, s'engage à paraître habillée de fourrure le plus souvent possible et spécialement lorsqu'elle se montrera cruelle envers son esclave.
Voici donc les deux rôles dans lesquels vont se lancer ces deux jeunes gens. Ce qui devient intéressant à partir de ce moment-là, c'est que la séparation entre le fantasme, celui de Séverin, et la réalité devient plus ténue. Il essaye de faire pénétrer dans la réalité son fantasme et il essaye de faire en sorte que Vanda se coule dans ce moule, en fait, d'une certaine manière. Et ils finissent, tout au long de l'histoire, par se perdre chacun dans ce qui n'était qu'un rôle, devient leur véritable personnalité. Leur relation évolue, ils décident de partir ensemble, Vanda décide qu'ils doivent partir ensemble, ils s'isolent en Italie, et pendant une certaine partie du roman, ils vivent cette sorte d'étrange idylle qui leur correspond finalement à tous les deux, Vanda se découvrant des penchants cruels, tandis que Séverin, lui, s'adonne en toute liberté à son fantasme enfin concrétisé. Cependant, le roman est un récit dans le récit. C'est une mise en scène de ce récit. L'auteur aurait aussi bien pu nous proposer directement les confessions du suprasensuel, mais il décide de les enchâsser dans ce premier récit. Et lorsque se closent les confessions de Séverin, il y a un retour au cadre premier et il y a donc une morale à cette histoire. Or, la fin est extrêmement lapidaire et d'une certaine manière, on peut dire que Séverin conclut son récit sur une sorte de pirouette quasiment triviale dans laquelle il compare les hommes aux animaux. Les hommes qui jusque-là étaient associés aux hommes, à la divinité, à la culture classique, à la Vénus, le grec, l'Apollon. Tous ces éléments disparaissent pour ne plus laisser que des ânes et des coqs. Et en fait, le récit de Séverin est le récit d'un échec. L'échec de cette concrétisation du fantasme qui vient poser la question de ce que doit réellement être un fantasme. Peut-il se réaliser, peut-il conserver sa puissance lorsqu'il se réalise? N'est-ce pas le propre même du fétichisme de s'attacher à un objet en image par l'imagination? Et quelles peuvent être les conséquences de sa présence dans la réalité? Je vous laisse de fait réfléchir à cette question et j'espère que vous aurez envie de lire ce livre qui apporte déjà une ébauche de réponse.
Eh bien, merci à toi Sophie pour cette sulfureuse chronique. Qu'as-tu à nous proposer pour la prochaine pause musicale?
Alors je vous laisse avec l'ambiance très cinémagénique de Kamasi Washington et Street Fighter Mass. We'll be right back.
toujours sur les ondes de Silla pour votre émission littéraire. J'irai cracher sur vos ondes. C'était Kamasi Washington de Street Fighter Mass pour toutes les oreilles les moins chastes. Et tout de suite, nous retrouvons Marielle pour la suite avec les coups de cœur des libraires de Le Fayère. Samedi 15 septembre 2018, 2h18, message de Marielle.
10h demain à la librairie. Ou 9h20 chez toi et on prend un café à Sainte-Anne. Samedi 15 septembre 2018, 3h15, Martin est saisi d'une angoisse baudelairienne à en oublier son propre nom. Il se jette sur son téléphone et constate.
Ah oh putain, c'est vrai, j'avais zappé. On peut se dire 9h20 Sainte-Anne pour un café. Faudra prendre de quoi noter.
Réjouis à l'idée d'honorer la célèbre devise « Mens sana in corpore sano ». C'est avec entrain que nous sommes allés à la librairie Le Fayère afin d'abreuver notre soif littéraire tout en nous gavant de croissants et de café.
Bref, un petit déjeuner littéraire chaleureux, quoique quelque peu grabataire, chez Le Fayère. Confortablement installé et reçu par Véronique Marchand, voluptueuse et illustre libraire de notre partenaire Le Fayère, et Anne-Laure Delise, jeune première pleine de fraîcheur.
Comme l'a souligné le délicat et bon vivant Dominique Fredge, le directeur.
Parmi les 15 coups de cœur littéraires qu'elles ont partagés avec nous ce matin-là, 4 ont retenu notre intention. Nous avons fait le choix de les regrouper selon 2 thèmes, l'adolescence avec Miss Jane de Brad Watson et Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, et Le pouvoir et l'argent avec Le gentleman de Moscou d'Amor Tolles et La belle de Casa d'Incoli Jean Boffin.
Pour ne pas faillir à notre parole, lançons-nous dans le vaste thème de l'adolescence. Les adolescences trop chastes font les vieillesses dissolues, nous confiait Gide dans son journal. Qu'en est-il de nos 4 jeunes héros du roman Leurs enfants après eux, créé par Nicolas Mathieu ? Anthony, Steph, Clem et Hassine vivent à Ayange et ils ont 14 ans en 1992. La ressemblance phonétique avec Ayange, bourgade mosellane dans l'est de la France, n'est pas le fruit du hasard. En effet, la montée du fascisme, du parti du Front National dans la vallée de la Fensch, n'est pas un secret. Récemment, on célébrait le maire pour sa décision d'expulser le Secours populaire, jugé pro-migrant. Revenons au roman qui tisse avec ingéniosité la vie de ces 4 ados pendant 4 étés. Anthony, Steph, Clem et Hassine vont découvrir l'expérience du poppers, du rock et les émois des premiers amours. Comment chacun est-il déterminé par son milieu social ? Voilà la question qui ne quitte pas l'esprit du lecteur.
Le choix de ce roman est quelque chose de très intime en réalité. Il y a énormément de résonance avec Nomi, Marielle et moi, car nous sommes tous les deux originaires de l'Est, et comme vous pouvez le constater ce soir, nous sommes partis de cette région, car l'air, je vais utiliser des mots peut-être un peu forts, y est de moins en moins respirable politiquement parlant, comme le décrit si bien ce roman. Et il y a une question du coup qui me vient à l'esprit, c'est doit-on rester et résister ou partir et respirer ? C'est une histoire bien ficelée à laquelle on peut croire, même si parfois le style fait un peu penser à Olivier Adam qui a écrit notamment « Je vais bien, ne t'en fais pas ». Et j'apprécie pas énormément cet auteur, donc il y a des moments où j'y croyais moins, quoi. Ce qui résonne aussi beaucoup avec notre époque, c'est à un moment donné, c'est en été 98, et du coup c'était la Coupe du Monde, et voilà, ça m'a fait un peu sourire au milieu de ce roman grave et lourd.
Alors, après, nous, ce qu'on a apprécié aussi, forcément, c'est l'origine de l'auteur. Puisque Nicolas Mathieu est né à Épinal, il maîtrise l'univers ouvrier si particulier de la Lorraine. Et pour moi, le petit moins, ce serait plutôt cette notion de prédétermination qu'on trouve déjà chez Zola en littérature et qui ensuite a été reprise par nombre de psychologues, psychanalystes et sociologues. Mais... ici, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que c'est un atout ? Pour moi, non. À l'Est, rien de nouveau.
On va passer au deuxième roman qu'on a choisi, c'est Miss Jane. Alors c'est un roman initiatique où l'on suit le destin de Jane, l'arrière-grand-mère de l'auteur, qui a vécu au début du XXe siècle aux États-Unis. Alors, faut savoir que c'était un enfant non désiré, assez peu considéré par sa mère et qui, en plus, naît avec un handicap que je vous laisserai découvrir à la lecture. Ce roman est un hymne en fait à la différence, à la construction de soi face aux autres et surtout aux regards étrangers et pas hyper bienveillants, quoi. Malgré tous ses malheurs, cette jeune fille résiste face à ce monde-là et comme alliée tout au long du roman, il y a un médecin qui va l'aider à survivre tout au long de sa vie et l'aidera aussi à surmonter toutes ses difficultés. C'est un roman poignant, d'autant plus que cette histoire est vraie, comme je l'ai dit au début. Voilà. Bah, du coup, on va enchaîner avec le troisième roman, qui est La Belle de Casa.
Tu fais quoi au Maroc? Tu veux passer de l'autre côté, c'est ça? L'Espagne?
Je voulais pas être ici. Ma sœur, on ne peut faire confiance à personne dans ce monde. Un escroc m'a déposé là, alors qu'il m'avait promis la Normandie. Je devais être débarqué à Deauville, puis TGV Paris direct. « Tu connais Deauville ?» il me demandait toujours. Le salopard. Je voulais voir Bella, London, Panama, pas le Maroc. J'étais sur un bateau, puis je me suis retrouvé ici.
Quoi ? Tu n'es pas content d'être là ?
Si, mais comprends-moi. Si je croyais avoir quitté l'Afrique, c'est pas pour m'y retrouver encore. Surtout malgré moi, mais je m'adapte. J'ai des projets. C'est pas mal ici.
Et tu fais quoi en attendant ?
Je suis un poète, je te dis. J'ai beaucoup aimé les choses que tu disais tout à l'heure. Un poète est sensible aux mots.
Tu ne vis pas seulement de mots. Tu fais quoi ? Je t'ai demandé.
Des affaires.
Quelles affaires ?
J'échange avec des gens sur Internet et ils m'envoient de l'argent.
Tu parles avec des femmes, c'est ça ? Dis-moi la vérité.
Ma sœur, je ne fais rien de mal. Elles ont besoin de moi là-bas. Tu sais, en Europe, les gens ne vivent plus beaucoup entre hommes et femmes. C'est moderne là-bas.
Et voici venu le temps des rires jaunes et du chant des partisans. Nous abordons les thèmes de l'argent, de la misère, du pouvoir et des laissés pour compte en vous résumant les enjeux de La Belle de Casa, née sous la plume d'Incoli Jean Bofan, auteur résident en Belgique et né à la République démocratique du Congo. L'histoire prend place à Casablanca, au centre-ouest du Maroc. Dans son film Casablanca, est-ce un événement fortuit si l'écrivain a choisi cette ville, puisqu'elle est déjà mise à l'honneur par Michael Curtis dans son film Casablanca en 1942. Je ne peux pas croire que ce soit le fruit du hasard, car Curtis filmait déjà l'espoir d'êtres humains voulant obtenir des papiers pour quitter leur pays.
À toi,
dit Barzac, tendant le poignard plein de sang à Slimane Derviche. Avant de comprendre, il avait déjà la lame dans la main. Pris de vertige, il leva le bras et frappa. Il fut surpris de voir la lame s'enfoncer si facilement dans la chair de Dramé, faisant suinter de l'hémoglobine sur le manche du couteau, le lâcha aussitôt, épouvanté par son geste. Slimane se redressa, les yeux hagards. Pendant que les autres s'acharnaient contre les corps à coups de pied, Derviche, l'esprit pris dans un tourbillon, observa la scène quelques secondes, mais son instinct lui dictait de s'extirper de la pièce à l'instant. Il se retrouva à dévaler les escaliers de l'immeuble 4 à 4, suivi par tous les autres. Au dehors, l'air comme de l'étoupe l'étouffa. Il courut dans le dédale des ruelles et ne ralentit que lorsque son cerveau sembla reprendre le dessus. Il marchait avec hâte dans la nuit opaque et avait l'impression que toute la ville entendait ses pas résonner sur les pavés de pierre. Il tentait de recouvrer son calme, de rassembler ses esprits, mais l'opération s'avérait complexe. La culpabilité l'empêchait de se repasser les images de ce qui s'était déroulé quelques minutes plus tôt dans la chambre minable, et il sentait qu'il devait se mettre à l'abri entre ses propres murs. Il évitait le regard des ombres qu'il croisait. Il avait même l'impression qu'elles s'écartaient à son passage. Ce qu'il venait de commettre se reflétait sans doute sur son visage. Chacun pouvait y lire son forfait. Les poings et la mâchoire serrés, les yeux emplis de larmes, il exhala un gémissement. La scène de carnage à laquelle il venait de participer l'avait littéralement dépassé, dans le timing et dans l'horreur. Machinalement, il frotta ses mains à son pantalon et les examina. Il subsistait une pellicule brune entre ses doigts. Il se remit à courir jusqu'à ce qu'il arrive à une centaine de mètres du café Djid, où il ralentit enfin le pas, faisant de son mieux pour se débarrasser de cet air éperdu qu'il arborait.
Un des personnages du roman, c'est le malin, chailleur de profession, soit en l'occurrence cyber-arnaqueur, voit également le jour au Congo. Démocratique, pour citer CC, lorsqu'il se présente à la voluptueuse Ishraq. L'incipit, le début du roman, trouve son premier souffle par la mort d'Ishraq la fougueuse. Ce roman dénonce, sous une plume experte, les malfaçons de notre société, les aspirations de chacun qui écrasent la vie des plus infortunés, l'ambition d'un commissaire, les injustices et les mensonges de chacun mettent à l'épreuve des personnages très humains, des personnages qui croient, imaginent et désirent une autre vie, un autre monde, des personnages qui affrontent une certaine fatalité, celle du pouvoir et de l'argent. Ce que j'ai retrouvé dans La Belle de Casa, c'est le système patriarcal et son absurdité du vivre encore. Les plus extrémistes sur la question du genre, du moins ceux que j'ai eu le plaisir de rencontrer, énoncent souvent l'opposition des deux sexes. Et c'est malheureusement cette vision manichéenne que j'ai découverte dans La Belle de Casa. Un ami de train, Kazim, m'a raconté les racines matriarcales de son pays d'origine, lorsque celui-ci répondait encore au nom de Mésopotamie. Et pourtant, qu'en est-il du statut de la femme en Turquie, alors qu'elle était précurseur, un pays précurseur, pardon, dans le droit des femmes ? Il convient donc de s'interroger sur nos luttes actuelles. Comment faire entendre la notion d'égalité ?
Par rapport à ce roman, là, moi, ce qui m'a le... Enfin, je l'ai très vite feuilleté et ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le style et... Enfin, c'est l'humour et la distance par rapport à la réalité qui fait que ces personnages-là sont très attachants et ça me fait beaucoup penser aux personnages en haut couleur qu'on voit à Saint-Denis, à Paris. C'est les sapeurs. Je sais pas si ça vous dit
quelque chose. Oui, totalement.
Et du coup, voilà, ça me fait beaucoup penser à ça. Il y a un quatrième livre dont on
va
parler.
Voilà, on va procéder au Gentleman à Moscou d'Amor Towles afin de nous détendre quelque peu.
Exactement.
Succès littéraire, l'intrigue prend place à Moscou dans les années 20.
21 juin 1922. Comparution du comte Alexandre Ilitch Rostov devant le comité exceptionnel du commissariat du peuple aux affaires intérieures. Camarade procureur Vinchinsky.
Votre nom ?
Comte Alexandre Ilitch Rostov, membre de l'ordre de Saint-André, membre du Jockey Club, maître de la chasse.
Vous pouvez garder vos titres, personne ne vous les disputera. Cependant, pour qu'il n'y ait pas de confusion, êtes-vous bien Alexandre Rostov, né à Saint-Pétersbourg le 24 octobre 1889 ?
En soi-même.
Avant toute chose, je dois dire que je ne me souviens pas d'avoir vu une veste décorée d'autant d'insignes.
Merci.
Ce n'était pas un compliment.
Le romancier américain nous surprend par les manières de son héros aristocrate, toujours gentleman, le comte Alexandre Ilitch Rostov. Alexandre est assigné à résidence. Sa résidence, ben, ce n'est plus la demeure familiale des heures dormantes, mais l'hôtel Métropole. Et il passera d'une suite dans cet hôtel à une chambre de bonne au dernier étage. J'ai découvert dans ce roman une sorte d'opposé au bel ami de Maupassant. En effet, ici, ce sont les femmes rencontrées qui se servent d'Alexandre, de Sacha, pour avancer, et non l'inverse, comme le proposait notre cher Guy. Que ce soit Nina, enfant puis adolescente, qui use du comte comme compagnon de jeu et d'espionnage, ou Nina, adulte et mariée, qui cette fois-ci l'emploie comme babysitter de sa fille Sophia, Alexandre n'arrête pas d'aider les femmes. Amor Towles ne semble pas sectaire, car notre gentleman assiste également le parti en leur apprenant, au cours d'un dîner au Métropole, chaque troisième samedi du mois, les mœurs et traditions de l'Occident, car la Russie cherche des partenaires commerciaux et politiques. Une belle histoire où l'on découvre le point de vue de l'aristocratie dans ces années post-révolutionnaires. Post-révolution. L'extrait que vous allez entendre fait suite à la première rencontre du comte avec Anna Urbanova, où chacun fait montre de son écho. Un échec cuisant pour une rencontre amoureuse.
Aussi, le barman expliqua en haussant légèrement la voix. La personne qui était assise en face de vous. Ah oui, merci. Audrius regagna son poste et le comte déplia le message sur lequel était inscrite la demande suivante dans une écriture svelte.
Merci de bien vouloir accorder une deuxième chance à cette première impression. Suite 108. Et vous allez à présent entendre un autre passage où le comte est invité à dîner chez madame.
Le comte s'apprêtait à porter un toast à son expérience exhaustive des pommes lorsqu'il se corrigea d'un geste du doigt.
En fait, il y a une pomme que nous n'avons jamais mangée.
L'actrice leva un sourcil interrogateur.
Laquelle ?
Selon les croyances du coin, tout au fond de la forêt, il existait un arbre aux pommes noires comme le charbon. Et si vous trouviez l'arbre et mangiez de ses fruits, vous pouviez recommencer une nouvelle vie.
Le comte but alors une gorgée généreuse de Montrachet, content d'avoir fait remonter du passé cette petite histoire traditionnelle.
Alors, vous le feriez ?
Je ferais quoi ?
Si vous trouviez cette pomme cachée dans la forêt, vous croqueriez dedans ?
Le comte posa son verre sur la table.
L'idée d'un nouveau départ a quelque chose d'attirant. Mais comment pourrais-je renoncer aux souvenirs que j'ai de mon foyer, de ma sœur, de mes années d'études ?
Puis, faisant un geste en direction de la table...
Comment pourrais-je renoncer aux souvenirs de cette soirée ensemble ?
Alors Anna Urbanova, ayant placé sa serviette sur son assiette, repoussa sa chaise, contourna la table, saisit le comte par le col et l'embrassa sur la bouche.
Bref, un beau roman et de belles aventures sous le décor magique des Moscovites.
En espérant que ces coups de cœur seront aussi les vôtres, nous remercions encore notre partenaire Le Fayeur pour leur accueil. Alors le prochain petit déjeuner littéraire se déroulera le 29 septembre prochain à 10h et les libraires recevront Marina Dédéian pour son livre « Tant que se dresseront les pierres ». Et tout de suite, nous écoutons Saez avec « Jeunesse, lève-toi ».
Éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les princes, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Moi, contre ton épaule, je repars à la lutte. Contre les gravités qui nous mènent à la chute. Pour faire du bruit encore, à réveiller les morts. Pour redonner éclat à l'émeraude en toi. Rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine. Comment on nous écarte, perfusion dans la veine. À l'ombre du faisceau, mon vieux, tu m'auras plus. Ami, dis quand viendra la crue. Contre-courant, toujours sont les contre-cultures. Au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque s'en est sonné la mort du politique. L'heure est aux rêves utopiques pour faire nos ADN un peu plus équitables, pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi. L'air de lune indien, toujours surfer la vague. À l'âme au creux des reins, faut aiguiser la lame. Puisqu'ici il n'y a qu'au combat qu'on est libre. De ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici il faut faire des bilans et du chiffre. Sont nos amours toujours au bord du précipice. N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse. Comme un souffle à venir vient raviver les princes. Comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand plongé dans le gouffre, on sait plus où est là. Jeunesse, lève-toi. Contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous perd. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi.
C'était 16 avec Jeunesse, lève-toi. Vous êtes toujours sur Syllab, dans J'irai cracher sous vos ondes. Mais que vois-je au loin ? Un mirage ? Une image christique ? Presque, puisque Serge vient de nous rejoindre dans le studio. Bonsoir, fraté.
Ouais, j'arrive, j'arrive. Vas-y, balance mon jingle.
Oh, Serge. Serge.
Serge.
Oh, Serge.
Salut les trous de cul. Alors, comment qu'ils vont? Ouais, ouais, les gars, c'est bien à vous que je parle et pas aux millions d'auditeurs qui nous écoutent. Salut les fanzous. Eh non, jamais j'oserais parler de toi comme ça. Toi-même, tu sais, tu es la famille, fraté. Alors, ça va, je sais, t'es marre. Hein, le mec, il me regarde avec ses yeux de merlan frit, genre, il va me faire la misère. Ok, je suis grave à la bourre, obligé de faire du devin sur le périph, hein, en slalomant entre les motards qui roulent sur la bande d'arrêt d'urgence. Non mais, sérieux les gars de Joe, hein, quand vous voyez une grosse Merco MG avec des pneus de 4x4 et un pare-buffle, c'est que c'est wham. Donc on se pousse, hein, je risque pas la mort pour le plaisir. Ouais, j'ai une bagnole équipée au cas où la vilaine est en crue ou qu'il faille chasser les pécaribes. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, je vous raconterai plus tard. Alors voilà, j'étais tranquille, j'étais pélard, hein, comme dirait mon pote Renaud, en mode transat, playa et un ficello à la place du string. Et en vrai, il y a un putain de concept, hein, là, surtout pour les amateurs de huc et de fromage. Hein. Bref, j'étais donc au KLM, la couillasse qui prenait l'air au bord de la piscine, quand l'amiche m'appelle, c'est le ministre de l'Éducation nationale quand même. Bah alors, mon Sergio, hein, ça serait-il pas mal si tu reprenais le service pour faire des fiches de lecture pour le nouveau programme de l'agrégation de lettres, hein? Histoire de rester sur une bonne lancée. Bon, je te cache pas que j'étais pas hyper chaud de la bitasse, hein, comme on dit au Cap d'Agde, mais vu les circonstances avec le poteau Marouane, faut pas trop la ramener en ce moment au gouvernement. Hein.
Attends, qui ça ? Jean-Michel Blanquer, on a la référence, mais Marouane, je vois pas. C'est un pote de ton quartier ?
Ah ok, non, vous y êtes pas du tout, je parlais d'Alex, quoi. Benny ! Enfin, Benny Bla, Benalla, Alexandre Benalla, quoi.
Mais c'est quoi le rapport entre vous deux, là ? Vous vous connaissez ?
Un peu, mon neveu, qu'on se connaît, je veux, lui. Bon, Benito, lui, il s'occupait du presse, hein, Chroma, donc déplacement, relationnel, communication. Ah, je déconne, lui, c'est la sécu, hein, tout ce qui se rapporte au pétage de genoux. Et puis WAM, bah, c'est la même chose, mais côté éducation nationale, hein, en mode top chef, mais pas version cuisine, hein, version grammaire et littérature. Vous avez une heure et demie pour expliquer la différence entre une référence endophorique et exophorique, avant de prouver qu'un déictique n'est rien sans la situation d'énonciation. Ah, ça la coupe, là. Hein. Ah, y a pas de carottes en gelée ou d'émulsion de cacahuètes ou de je sais pas quoi de conneries de bobo de merde. Hein. Bon, tout ça pour dire que je suis encore là, hein, en mensuel, je vous le rappelle à tous, donc chaque mois, une fiche de lecture pour disséquer, démonter, démembrer les grandes lignes des œuvres au programme de l'agrégation, histoire que ça soit pas la PLS de l'extrême le jour J. Et comme je suis en très 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 grande forme ce soir et que je suis hyper content de vous retrouver, hein, il y en aura pas un, pas deux, mais bien trois bouquins d'un coup. Hein. Allez hop, c'est pour moi, c'est la santé. Donc, je vais donc m'attaquer à Conrad, au cœur des ténèbres, Antounès, le cul de Judas et Simon avec l'acacia. Ok, je vous la fais un peu à l'envers parce que je les ai déjà chroniqués l'année dernière, hein, mais c'est la question de l'IT comparé qui reste au programme un an sur deux. On va donc s'occuper de la question plutôt que des œuvres une par une, à savoir expérience de l'histoire, poétique de la mémoire. Eh ben mes gens blonds, on n'est pas sortis du marigot, hein, comme ils disent dans l'hémisphère sud. Hein. Et justement, en parlant des pays de l'hémisphère sud, hein, on est parti, parce que c'est quand même plutôt ce que ça concerne. Alors sortez les bloc-notes, je vais essayer de faire du concret, du rapide et de l'accessible. Et je crois bien que c'est ce que tout le monde veut. Alors, premièrement, de quoi ça parle les bouquins ? Eh ben ouais, parce que c'est quand même mieux d'avoir une vague idée. Hein. Alors, Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, c'est l'histoire de Marlowe, un marin qui est envoyé au Congo, propriété du roi de Belgique, parce que c'était son kiff et puis qu'il y avait quand même du pognon à se faire, pour aller chercher Kurt, un homme mystérieux qui est le plus grand braconnier d'ivoire, hein, genre un mélange entre Indiana Jones, Tarzan et Mr. Hyde. Hein. Alors, on retiendra esclavagisme cru, capitalisme, racisme et aventure. Ensuite, le cul de Judas de Lobo Antounès. Car là, c'est complètement différent. Là où il y avait roman d'aventure et roman de marin, ici on découvre un narrateur personnage qui converse avec une femme qui ne parle jamais d'ailleurs. Bon, après, notre bonhomme, il est rebout de chez rebout, hein, donc ça doit pas trop aider, et j'en sais quelque chose. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le récit fait un tas d'allers-retours entre temps du passé et temps du présent, lui permettant de raconter son histoire. Jeune médecin portugais envoyé en Angola pour soigner les armées chargées de défendre les colonies. On retiendra horreur de la guerre, mutisme, mutilation, mais aussi viol, dégradation physique et morale, impérialisme, etc.
Encore que du fun.
Enfin, l'acacia de notre ami Claudie Simoni, comme on le nomme chez les gens qui n'ont rien à foutre de la littérature ou bien qui s'en battent les couilles. Remarque, l'un n'empêche pas l'autre, hein, Tamar. Bon, alors lui, c'est une sorte de melting pot hein, que représente Claude Simon. Récit qui retrace la quête du passé, la quête du père, de la famille, de la mort. Vous allez voir, c'est hyper gay. Hein. Gay, G-A-I, je précise. Rupture chronologique des chapitres entre tant de mémoires, de souvenirs personnels et de recherches. On retrace les guerres mondiales, les colonies, l'horreur, la peur, mutilation et autres délices de l'époque de nos grands-parents. Ne l'oublions pas. Alors maintenant que c'est bien bien clair que le programme, hein, c'est pas Joby Joba et Gypsy King au Sainte-Marie de la Mer, on va attaquer dans le dur. Et pour ça, je vous propose de dérouler les thématiques les plus importantes. Hein, tu as compris, auditeur, que je vais pas... ça va être compliqué de faire tenir 6 mois de préparation en 10 minutes. Hein. On m'appelle pas David Copperfield. Hein, le seul tour de magie que je connaisse, c'est celui de faire disparaître 36 cm d'un seul coup. Mais j'ai pas prévu le coup, hein, on assistantait pas. Enfin bref, bon, premièrement... évacuer directement la question de l'autobiographie, hein, s'il ne faut pas complètement la sortir de l'étude, parce que je vous rappelle que nos trois zigotos ont quand même une petite expérience de ce qu'ils vous racontent, il ne faut pas non plus lui accorder tout le crédit, hein, en bon littéraire que vous êtes. Eh ben wesh les gars de Joe, hein, on est justement dans la littérature, donc il y a bien reconfiguration poétique du matériau référentiel. Hein, c'est sérieux. Hein, surtout, notez que Simon et Antounès, eux, ils sont pas trop dans le pacte autobiographique, hein, c'est pas trop leur délire. Hein. Par ailleurs, je précise que là, on va parler plutôt de témoignages, hein, comme pour une gardave qui tourne mal, quoi, et où ils ont retrouvé le gars qui t'a tiré ton domac dans la rue. Enfin bon, sale histoire. Ouais, c'est une blague qu'a foiré, là. L'écriture cherche à faire surgir une mémoire de l'événement. Donc, qui présente des doutes, des blancs, des incertitudes et parfois une dichotomie entre dissible et indicible. Alors là, à ce stade, vous vous dites que ça va être vachement moins marrant mes chroniques cette année. Hein. Deuxièmement, la confrontation des récits officiels de l'histoire, qui l'a fait et pourquoi, et de ceux qui la vivent, hein, rapport objectif-subjectif. Ensuite, on évoque forcément la crise de l'expérience et la crise du récit face à la violence historique de la Première Guerre mondiale, hein, qui marque une première crise. Et là, je m'appuie sur Paul Valéry, hein, qui pose les choses très clairement. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Voilà, c'est propre, ouais. C'est carré. Bon, alors, ce qu'il faudra aussi absolument, c'est faire un débriefing avec Hannah Arendt et la notion d'impérialisme et de colonialisme. Et perso, moi, j'ai pas le time. Bon, tout ça, forcément, ça déboule sur quoi, hein? Ben, la violence et la mort, évidemment, hein? Alors, principe de réification très fort dans les textes, chaîne des esclaves comme des fourmis chez Conrad. Chez Antounès, c'est les mouches qui entourent les hommes et les corps humains qui deviennent des essaims. Chez Simon, c'est les noirs qui deviennent des végétaux. Alors, on ne sait pas, ils sont entre les humains et les végétaux. C'est très imagé, hein, voilà. Donc, il y a une analogie également entre l'homme et l'animal qui est récurrente, hein, la tartinade, comme on dit. Alors, pas seulement les colonisés, hein, mais aussi les soldats qui deviennent des chiens par leur passivité. Il y a aussi toute une histoire de castration symbolique. Enfin bon, on finit avec, pour finir cette idée, donc avec ce bon vieux Freud que tout le monde connaît. Hein, limite, c'est presque devenu un membre de la famille, lui, hein, genre le grand-oncle perdu. Enfin, tu vois. Donc, il dit nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie. Et bam, qu'est-ce qui se passe là alors? La guerre comme levée de la censure morale, permettant le retour des pulsions violentes refoulées par les contraintes et les codes sociaux, tout simplement. Ce qui nous donne donc une liste de la mort basée sur l'antithèse barbarie-civilisation, qui structure le discours salazariste, par exemple, chez Antounès, impérialiste ou colonisateur. Donc nature-culture, primitif-progrès, enfance-adulte, animal-homme, féminin-masculin, noir-blanc, colonisé-colon, inhumain-humain, arrêtez-moi parce que je peux, indicible-dissible, enfin bon, tout ça. Et notamment ces grandes idées qui viennent du poteau Cesare Lombroso, notez-le bien, hein. Alors lui je pense qu'il va se faire un max de potes ce soir, puisque c'est lui qui développe la théorie racialiste, hein, qui dit que l'évolution, nous partons du noir pour aller vers le jaune et terminer avec les blancs, forcément, oui. Hein, en haut de la chaîne.
Oui. Ah, joli dégradé.
Bon, c'est pas les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, à la limite les Kids United, mais bon, on fera avec. Bon, là, j'ai déjà bien défriché le début du problème. Hein. Il en reste encore environ 18 topics que je pourrais dérouler comme ça. Non, sans déconner, je vais pas tout bâcler ma chronique, et notamment enfin les œuvres que je voulais vous présenter. Puis en plus, bon, moi, j'ai un couscous merguez qui m'attend à la Casbah. Sans déconner, j'ai les priorités. Deux conseils. Approfondir la question du besoin de parler, de la problématique cathartique du roman de formation et de la solitude du témoin. Enfin, je vous invite à quand même aller checker Vitzef les podcasts sur les trois auteurs que j'ai fait l'année dernière, parce qu'ils étaient peut-être mieux que ce que je viens de faire maintenant. Ils sont sur le site de Syllab, le Facebook de l'émission et sur le mien, évidemment. Ça pourrait être pas mal pour approfondir et finir en beauté. Pour finir en beauté, pardon, je vous lâche avec le dernier son de Dizzy de la Peste, Hiroshima, qui complète en lien
qui complète, pardon, et qui est en lien avec problématique de la famille, la guerre, l'expérience, de l'histoire.
Entre mon père et ma mère, je suis né en temps de guerre. Je voulais pas m'entendre dire putain. La rue m'a eu, pourtant je trouve pas ma place dans ces putains de bahuts. Ah. Ira, ira, irradié. La nuit je me cache, je suis fou, allié. La vie je nage, je n'ai pas bien. Irradié par mon passé. Daron, famille, je sais pas c'est quoi. Poteau, ça va, coussi. Je suis détaché, ne t'attache pas. Les liens, tout ça, je sais pas c'est quoi. Hiro, 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 Shima. Hiro, 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 Shima. Hiro, 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 Shima. Hiro, Hiro. J'ai l'amour nucléaire, bébé. Je suis pollué, tu peux pas attraper l'éclair, bébé. Tu vas te brûler, daron. Famille, tout ça, je sais pas comment on fait si jamais tu sais toi si tu pouvais montrer mais tu sais quoi, tu sais, je vais me tromper, y'a comme un fou en moi que je sais pas dompter, donc compte pas sur moi bébé, je sais pas compter, j'ai trop de blessures cachées, un jour je vais succomber. Ira, ira, irradié, je m'ennuie, je clenche, je suis fou, allié, la vie, je nage, je n'ai pas pied. Irradié par mon passé. Hiro, 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 Shima. Hiro, 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 Shima. Hiro, 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 Shima. Hiro, Hiro. Yeah, yeah. Yeah, yeah. J'suis démembré. Amputé au milieu d'un cratère, éloigné, solo, je lance des halos à la terre. Allo, allo, plus de réseau, je suis au milieu d'un cratère. Destin calciné, y'a que des bonhommes en pierre. Pollué, pollué, destin nucléaire. Pollué, pollué, dans le vent d'une mer. Passé, frelaté, irradié, plus de marche arrière. Démembré, amputé au milieu d'un cratère.
Vous êtes bien sur Syllab dans J'irai cracher sur vos ondes. Nous venons d'entendre Hiroshima de This Is La Peste, un choix musical de Serge. Merci à toi. Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire autant que nous avons lu. Je tiens à remercier ce soir Jean, notre technicien, pour ses doigts de fée. Merci à toi, Jean. Merci à toi, Marielle, de m'avoir supporté pour cette rentrée littéraire à Le Fayère. Et enfin, merci à toi, Serge, pour cette petite piqûre de rappel de l'agrégation 2018. Je remercie aussi Sophie qui pour sa chronique. Et merci à tous les lecteurs de ce soir, Jeanne, Jean, Julien et Arthur. Vous pourrez trouver toutes les références dont nous avons parlé sur syllab.fr à la page de l'émission. Le podcast sera disponible dès demain 10h sur notre page Facebook.
Et à 21h... Attention, ça va devenir une habitude.
Ah oui, attention. Hein, je. Et à 21h, vous retrouverez votre émission de rap local et international, tout LC Blaster, pour leur émission de rentrée. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à 19h. D'ici là, portez-vous bien.